Vous écoutez Vendetta, le podcast vendéen qui s'intéresse aux grandes affaires criminelles de Vendée. Et aujourd'hui, on remonte le temps jusqu'au mois de juin 1902 à La Roche-sur-Yon pour vous raconter un vol audacieux qui a marqué toute la région, le cas de la Banque de France. 6 sacs d'or qui disparaissent dans la nuit, les autorités sont impuissantes et encore à ce jour, le mystère reste entier. Une affaire fascinante qui mêle audace criminelle, énigmes policières et secrets bien gardés. Vendetta. Au début du XXe siècle, La Roche-sur-Yon est une ville en pleine mutation, ancienne ville impériale. Elle s'étend et s'industrialise peu à peu. La Banque de France y tient donc un rôle central pour gérer les fonds des commerçants, des artisans et de nombreux habitants. La Banque de France de La Roche-sur-Yon est réputée pour ses coffres sécurisés, ses caves renforcées. Les méthodes de sécurité sont à la pointe pour l'époque. Portes blindées, serrures multiples, système de surveillance. Pourtant, malgré toutes ces précautions, la nuit du 17 juin 1902, tout va basculer. Dans la nuit, sous le voile de l'obscurité, un ou plusieurs individus s'introduisent dans la banque. Personne ne les aperçoit, ils connaissent les lieux et savent exactement où se trouvent les précieuses réserves d'or. Au total, ce sont 6 sacs d'or qui pèsent chacun plusieurs dizaines de kilos et contiennent des pièces et lingots qui disparaissent sans laisser la moindre trace. Quant à la technique qu'ils ont utilisée, elle demeure inconnue. Ont-ils forcé une serrure, exploité un passage secret ou bénéficié d'une complicité interne ? Le lendemain matin, le personnel de la Banque de France découvre que l'or s'est envolé. La ville entière est sous le choc et à cette époque, un vol d'une telle ampleur fait la une des journaux locaux et même nationaux. La peur et la fascination se mêlent dans les rues de La Roche-sur-Yon. Les autorités locales se mobilisent immédiatement. Inspecteurs et gendarmes interrogent le personnel, examinent chaque recoin, mais les preuves sont maigres. 3 suspects sont pourtant arrêtés, 3 suspects qui avaient un lien avec la banque et les environs, mais les preuves tangibles manquent. Pas de témoins directs, pas de traces compromettantes. L'affaire devient un véritable casse-tête pour les enquêteurs. Les journaux relatent chaque avancée, chaque hypothèse, mais le mystère s'épaissit. Le public est captivé, chacun émet ses théories, alimentant les rumeurs, vol interne, coups de bandits professionnels. Le moindre détail est scruté, analysé, commenté dans les salons et les cafés de la ville. Alors que la ville panique et que les journaux titrent à tout va, les rumeurs se multiplient. Très vite, plusieurs hypothèses émergent. La première est sans doute la plus évoquée à l'époque, et celle d'un coup parfaitement préparé de l'intérieur. Certains pensent que l'un des employés de la banque, connaissant tous les passages et les habitudes de ses collègues, aurait pu faciliter l'accès aux voleurs. Après tout, comment expliquer qu'aucun bruit n'ait été entendu, qu'aucune serrure n'ait été laissée forcer et que les sacs d'or aient été pris avec une précision quasiment chirurgicale ? Mais d'autres voix s'élèvent pour pointer du doigt des bandits venus de l'extérieur. La France connaît à l'époque plusieurs réseaux de cambrioleurs organisés, capables de planifier des vols audacieux dans des villes de province. Pour eux, la Banque de France représentait un trésor à portée de main, si l'on savait comment l'atteindre. Certains chroniqueurs de l'époque racontent que des témoins ont vu, quelques jours avant le vol, des silhouettes étranges rôder près de la banque. Les autorités, pourtant vigilantes, ne purent relier ces observations au casse. Une troisième hypothèse circule dans les cafés de La Roche-sur-Yon, la complicité d'un membre influent de la société locale. Certains prétendent que des personnalités de la ville auraient pu orienter les voleurs, soit par intérêt financier, soit pour couvrir d'autres activités clandestines. Aucune preuve tangible n'a jamais été trouvée, mais cette théorie alimente les discussions pendant des décennies. Pour les habitants, pour les enquêteurs, pour les journalistes, c'est un cas qui défie toute logique et toute explication. Plus de 120 ans après, le mystère demeure entier. À la fin de l'enquête, les autorités de La Roche-sur-Yon se retrouvent face à un constat amer. Les suspects sont relâchés faute de preuves suffisantes et les 6 sacs d'or ont disparu sans laisser la moindre trace. Pour les habitants, c'est la preuve que même dans une ville paisible, des événements spectaculaires peuvent bouleverser le quotidien. Le nom de la Banque de France est désormais associé à un mystère que nul ne pourra résoudre. Du côté de la banque, les mesures de sécurité ont été renforcées. Nouvelles serrures, système de surveillance amélioré, contrôle renforcé des employés. On raconte même que certaines directives de sécurité mises en place à la suite de ce vol ont inspiré d'autres établissements financiers dans toute la France. Le casse de 1902 devient rapidement une légende locale. Les journaux relatent les détails du vol pendant des semaines, les habitants discutent dans les cafés et les rumeurs concernant le mystère circulent de génération en génération. Certains jeunes, fascinés par l'intrigue, viennent encore des décennies plus tard demander à voir l'endroit exact où l'or a été volé. Pour les historiens, ce vol reste un exemple de l'audace des criminels de l'époque. Un cas a resté non élucidé, mais qui a marqué durablement la mémoire collective de La Roche-sur-Yon et de toute la Vendée. Plus qu'un vol, c'est un symbole, celui du génie criminel, allié à la chance, un événement qui traverse le temps et continue de fasciner encore aujourd'hui ceux qui se plongent dans les archives de Vendée.